Jésus est tenté par Satan. C'est incroyable, pourquoi le Fils de Dieu est-il tenté par Satan? Eh bien, parce qu'il s'est fait homme. Et que tous les hommes et toutes les femmes sont toujours tentés toute leur vie par Satan, alors il fallait qu'il vive la condition d'homme et nous montrer comment on peut vaincre la tentation. Les tentations auxquelles Jésus est soumis pendant ces 40 jours, pendant ce temps de préparation à sa mission, seront les mêmes auxquelles il va être soumis durant toute sa mission et jusqu'à sa mort. Mais vous voyez, nous sommes aussi soumis à la tentation. Et peut-être tout au long de l'année, nous ne nous rendons même plus compte que nous sommes tentés. Alors ce temps de carême, eh bien, est là pour nous montrer, comme les 40 jours du Seigneur, sur quoi nous sommes tentés et comment il faut lutter. La première des tentations de Jésus, c'est celle par rapport au moment justement où il a fini ses 40 jours. Peut-être il y a quelque chose qui vous a semblé un peu bizarre. Enfin, moi, quand je lisais cet évangile, je trouvais un peu bizarre cette phrase. Jésus a jeûné pendant 40 jours, c'est-à-dire comme à l'époque, c'est-à-dire en ne buvant que de l'eau. Et il est marqué, il eut faim. Ben oui, on s'en doute qu'il eut faim. Au bout de 40 jours sans manger, eh bien, c'est une erreur. Figurez-vous que depuis quelque temps, ça fait déjà quelque temps, j'ai lu une thèse de médecine qui montre qu'en fait, quand on jeûne, on n'a pas faim. Ah si, les premiers jours. Les premiers jours, parce que comme on a mangé, on arrête de manger et hop, on a tout déséquilibré. Et du coup, on a mal à la tête, on n'est pas bien, on a des vertiges, on a faim, parce que ça ne s'est pas stabilisé. Mais si vraiment vous jeûnez, uniquement en buvant de l'eau, sans manger, eh bien au bout de 3-4 jours, ça va s'équilibrer. Et ce qui compte pour la faim, c'est le taux de glycémie qui circule et qui vient dans le cerveau, l'hypothalamus, qui nous dit qu'on a faim ou on n'a pas faim. Et au bout de 4 jours, je vous promets, vous n'avez plus faim. J'avais un vicaire un jour, quand j'étais curé, qui a fait l'expérience, mais avant que je sois curé, sinon je ne sais pas si je l'aurais laissé faire. Pendant 35 jours, il a jeûné. Et au bout de 3-4 jours, il a continué à travailler quasiment normalement, comme si rien n'était, sans avoir ni faim ni mal à la tête. Eh oui. Alors qu'est-ce que c'est que cette faim ? Eh bien, au bout d'un certain moment, quand toutes les réserves sont épuisées dans les muscles et dans le foie, eh bien, au bout de 35 à 40 jours, on a faim. Eh oui, c'est cela qui dit l'Évangile. Luc, qui raconte cette histoire, est médecin, n'oubliez pas. Eh bien, il eut faim, et ça, c'est la fin de la mort. C'est-à-dire, au bout de 40 jours, quand vous ressentez la faim, ça veut dire que toutes les réserves sont épuisées et que vous allez mourir. Et cette tentation, vous le comprenez, c'est que Satan vient lui dire « Sauve ta vie, sauve ta vie ». C'est la même tentation que celle de la croix. « Descends de là, nous croirons en toi ». C'est la même tentation qui peut traverser son cœur quand il est arrêté et que Pierre sort son épée. Il dit à Pierre « Ne crois-tu pas que je pourrais appeler des légions d'anges ?» Oui, Jésus a les moyens de sauver sa vie. Il peut transformer les pierres en pain, il peut descendre de la croix, il peut appeler les anges, mais il ne le fait pas. Pourquoi ? Parce qu'il veut vivre vraiment ce que nous vivons. Aucun d'entre nous ne pourrait se sauver de la mort. Et comme Jésus, qui est vrai Dieu, mais qui est aussi vrai homme, veut vraiment vivre son humanité comme chacun d'entre nous, mais il veut la vivre avec l'amour de Dieu dans le cœur. Et voilà pourquoi il refuse cette tentation de se servir pour lui-même de sa puissance divine. Vous avez vu qu'il a fait des tas de miracles, qu'il a fait lever des paralytiques, qu'il a fait voir des aveugles. Eh bien, cette puissance divine, jamais, pas une fois, il l'a utilisée pour lui-même, pour se sortir d'un mauvais pas, pour se sortir de la souffrance, ou pour éviter de mourir. Voilà la première tentation. Mais n'est-ce pas un peu aussi notre tentation, nous qui sommes fils de Dieu, par le baptême? Quand nous prions, est-ce que nous demandons d'abord des choses pour nous? Seigneur, je suis fils de Dieu, je suis baptisé, il faudrait que tu m'exauces, voilà, je voudrais ça, 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 ça. Mais il faut être comme Jésus, ce n'est pas pour vous que vous avez reçu une puissance de fils de Dieu, c'est pour les autres. Alors, est-ce que vous priez d'abord pour les autres avant de prier pour vous? C'est bien justement cette première tentation. Le Christ a résisté à cette tentation d'utiliser sa puissance divine pour lui-même, uniquement pour les autres. Alors peut-être pendant ce temps de carême, purifiez votre prière. Oh, vous pouvez demander bien sûr des choses pour vous, le Christ ne l'interdit pas. Mais attention de ne pas prier que pour vous. Priez aussi d'abord pour les autres, ainsi vous serez exaucé pour vous-même. Vous savez, pendant un moment, j'ai demandé des tas de choses à la Sainte Vierge, j'ai jamais été exaucé. Puis un jour, j'en ai eu assez, je me dis, on va faire autrement, Sainte Vierge. Moi, je prie pour vos intentions et vous occupez des miennes. Eh bien, 8 jours après, tout ce que j'avais demandé et que je n'avais pas obtenu pendant 10 ans, je l'ai obtenu. Tout ça parce que je n'ai plus demandé pour moi, j'ai demandé pour la Sainte Vierge. Vous voyez un peu la première tentation. La deuxième, maintenant, eh bien, c'est le pouvoir. Eh oui, bien sûr. Mais ça aussi, c'est une tentation de Jésus pendant toute sa vie. Vous savez, quand il a fait des miracles et quand il a parlé de manière si brillante et extraordinaire, jamais un homme n'a parlé comme cet homme, disent ceux qui l'écoutent, et même ses ennemis. Eh bien, ils veulent le faire roi. Mais oui, quelle tentation extraordinaire. Mais Jésus est déjà roi. Il est roi du ciel. Et le principe de l'amour, c'est le principe de la royauté. Alors que nous pensons que le principe de la royauté, c'est la puissance de l'armée, la puissance de l'argent, la puissance de l'admiration des autres. Mais non, la véritable puissance qui nous fait roi, nous qui avons été baptisés prêtres, prophètes et rois, c'est la puissance de l'amour. Et voilà ce que Jésus nous dit. Quand il va mourir sur la croix, il n'a pas une couronne en or, il a une couronne d'épines. Il n'a pas un sceptre incrusté de pierres précieuses, il a un roseau. Et le voilà, l'homme dérisoire, qui n'est pas sur un palais, mais sur une croix. Et pourtant, il est marqué, celui-ci est le roi des Juifs. Il a bien une royauté, mais c'est la royauté divine. Ainsi, c'est aussi une tentation pour nous, après tout. N'avons-nous pas cette tentation, peut-être encore plus les jeunes que les plus anciens, qui sont passés au travers d'expériences qui leur permettent de prendre un peu de hauteur? C'est de devenir une idole, non pas un roi à la manière de Dieu, c'est-à-dire celui dont la puissance est dans l'amour, mais celui dont la puissance est dans l'admiration des autres. Combien, effectivement, sommes-nous tributaires du regard des autres? Ah, est-ce qu'il m'aime? Ah, est-ce qu'il m'admire? Ah, est-ce qu'il me trouve extraordinaire? Il me trouve beau, intelligent, et ceci et cela? Et voilà, et finalement, au bout du compte, on se prend pour une idole. Il y en a même qui deviennent des idoles. Tous les gens sont en train d'agiter leurs grelots autour d'eux. Ah, ouh! Eh oui, mais ce sont des idoles. Vous savez ce que c'est qu'une idole? C'est quelqu'un qui a pris la place de Dieu. Alors nous qui sommes fils de Dieu, nous voudrions aussi être rois à la manière des hommes, c'est-à-dire être une idole, prendre la place de Dieu? Non. Nous ne prendrons pas la place de Dieu puisque le Christ lui-même n'a pas voulu prendre la place de Dieu, lui, le Fils de Dieu qui s'est fait homme. La troisième tentation, eh bien, c'est de mettre Dieu au défi. Le Christ aussi passera par là plus tard. Évidemment, c'est à Gethsémani. Vous savez, il prie son père. Là, ce que dit le démon, c'est « Jette-toi en bas, de toute façon, Dieu va te sauver, puisqu'il a dit à ses anges qu'il te porterait sur leurs mains. » Et c'est vrai. Mais Jésus ne demande pas cela. Quand il est à Gethsémani, au comble de l'angoisse, comme nous pouvons être par moments dans une angoisse extrême, qu'il a une sueur de sang. Et cette sueur de sang était décrite en médecine, vous savez, c'est le signe d'une angoisse mortelle. Et donc le Christ a connu cela, bien plus que tout ce que nous pouvons connaître nous-mêmes. Et c'est à ce moment-là qu'il dit à son Père, « S'il est possible, Père, que cette coupe passe loin de moi. » Il voit sa passion, il voit l'abominable torture auquel il va être soumis, la flagellation romaine qui laisse la plupart des gens morts après cette flagellation, sa crucifixion et tout ce qui va suivre. Oh, pas seulement les insultes et les crachats, mais tout ce qui va suivre, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi. Et c'est cela la tentation. Et la tentation, c'est d'en rester là, Mais le Christ ira plus loin. Il dira à son Père, « Non pas ma volonté, Père, mais la tienne. » Ainsi, c'est aussi une tentation qui peut être la nôtre. Nous disons le Notre Père, et nous disons volontiers, « Que ta volonté soit faite. » Mais en fait, nous pensons « Que ma volonté soit faite. » « Seigneur, je voudrais bien que ta volonté soit ma volonté. Voilà, moi, ce que je veux. Et ce que je veux est bon. Je ne vois pas pourquoi tu ne me l'accorderais pas. » Et donc, finalement, au fur et à mesure, on finit par penser, « Voilà, ma volonté, Seigneur. Oui, oui, ta volonté, bien sûr, mais ta volonté, ce serait bien qu'elle passe par la mienne. » C'est ça la tentation. Mais d'abord, je suis fils de Dieu, c'est bien ce qu'a promis le Christ. Demandez, vous recevrez. Ben voilà, c'est le moment de le prouver. Je demande et fait que je reçois. Autrement dit, Père, notre Père qui es aux cieux, que ma volonté soit faite. Et non. Le Christ nous apprend à résister à cette tentation, c'est-à-dire à faire confiance à Dieu. Oui, je ne comprends pas pourquoi je suis dans cette situation. Oui, je suis dans le malheur. Oui, oui, mes pères, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Je ne comprends pas ta volonté. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Mais j'ai confiance en toi. Et je sais que de ce qui m'arrive, tu tireras du bien. Toi, Seigneur, tu peux tirer le bien du mal. Mais toi seul peux tirer le bien du mal. Et s'il m'arrive un mal que je ne comprends pas, plutôt que de vouloir que tu te soumettes à ma volonté, eh bien, je me soumets à la tienne, Père. Non pas ma volonté, Père, mais la tienne. Et c'est là justement qu'un ange vient servir Jésus, une fois qu'il a prononcé cette phrase. Et là, il n'est plus dans l'angoisse, il rentre dans sa passion, le cœur en paix et plein d'amour, parce qu'il a fait cette déclaration. Père, ta volonté et non la mienne. Je me rappelle du jour où moi, j'ai dit cela. Vous savez, tous les jours, bien sûr, plusieurs fois par jour, je dis « Notre Père, que ta volonté soit faite comme vous, hein ». Mais il y a un jour vraiment où je suis tombé à genoux et j'ai tout abandonné en disant « Père, que ta volonté soit faite ». Et ce jour-là, évidemment, c'est le jour où j'ai accepté de suivre le Christ. Je ne savais pas où il allait m'emmener, je savais que j'allais devoir tout quitter. Je ne savais pas où j'allais, je ne connaissais rien à rien d'ailleurs dans le fonctionnement de l'Église. Et c'est le jour après, et c'est quelque temps après évidemment que je suis rentré au séminaire. Voilà, il y a un moment où dans la vie, il faut dire que ta volonté soit faite en sachant que Dieu va nous emmener plus loin que ce que nous voudrions. Voilà ce qu'est le carême. C'est formidable, n'est-ce pas? Eh bien voilà, soyez soumis à ces tentations et comme le Christ, vous allez y résister et devenir de vrais fils de Dieu.